Merci d'être avec nous, amateurs de sport. Ce soir, un invité qui vient partager avec nous le fruit de sa réflexion sur ce à quoi devrait ressembler le paysage de l'industrie du sport professionnel dans les prochaines années à Montréal, parce qu'on constate que c'est un marché qui a beaucoup d'ambition. Nous avons déjà une équipe de hockey, une équipe de football qui pourrait vivre une relance prochainement avec la vente imminente, une équipe de soccer qui continue de faire des efforts pour s'établir, mais on veut ramener le baseball et on veut amener le basketball. Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça? Eh bien, on en discute avec notre invité ce soir. C'est un expert en marketing. Il a notamment travaillé au marketing de l'Impact de Montréal, mais a été impliqué sur la scène sportive, là, directement ou indirectement, à de nombreuses reprises au fil des ans. Il le demeure à titre d'expert en marketing et consultant, et j'ai nommé Hugues Léger, qui est avec nous en studio. Bonsoir, Hugues.
Bonsoir, Mario.
Je vais te poser d'entrée de jeu la même question que j'ai posée plus tôt cette semaine à Michael Fortier, qui souhaite amener une équipe de la NBA à Montréal. Hugues Léger, penses-tu que dans 5-10 ans, si on a plusieurs équipes de sport professionnel, basket, baseball, hockey, football et soccer, penses-tu que ces entreprises-là pourraient vivre de façon indépendante les unes des autres, ou que ça prendrait une structure comme celle qui est en place à Toronto avec Maple Leaf Sports and Entertainment pour toutes les chapeauter, pour assurer leur succès? Qu'est-ce que tu en penses, lui? Curieux d'entendre ton opinion là-dessus.
Tout à fait. Bon, évidemment, je suis de près le modèle de MLSI depuis plusieurs années, qui est un modèle de gestion de portfolio de marque sportive. Un portfolio de marque sportive se construit pour répondre à des segments de consommateurs. Donc, il y a des marques qui parlent plus à un certain démographique, à un certain groupe d'âge. Le hockey en ce moment, globalement, au terme du dollar dépensé et du client fidèle, c'est un groupe d'âge plus âgé en ce moment. C'est des franchises qui cherchent à renouveler leur clientèle. Je pense au Maple Leaf, comme aux Canadiens d'ailleurs. L'impact, si on fait le parallèle avec le TFC à Toronto, ça adresse son produit beaucoup plus à une clientèle 18-34, millénario. Après, t'as des sports comme le basketball qui arrive à Toronto, qui fonctionne très bien. La NBA a construit sa marque sur les 18-34. C'est le modèle mondial en ce moment. Il fonctionne très bien. Et ce modèle de gestion de portfolio à la MLSI mérite d'être considéré, je pense, pour Montréal aussi. On voit le contexte des Alouettes en ce moment. C'est réjouissant de voir que M. Goudzio arrive sur la shortlist, pour employer ce mot-là, d'acquéreur pour le club. On veut que le club réussisse aussi. Je pense que l'argent sera là à Montréal pour plusieurs équipes, mais la question, c'est quelle sera la patience des investisseurs pour dire, OK, je suis prêt à réinvestir pour être au niveau de ma ligue, au niveau des normes qui sont exigées, et sachant que la rentabilité ne sera pas là avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ensemble, avant plus tard. Donc, effectivement, c'est peut-être le moment où on pourrait réfléchir à une structure organisationnelle qui rassemblerait les entités sportives de la ville avec des marques et des segments de population de consommateurs différents. Et ça amène beaucoup d'avantages de gérer comme ça.
La structure en place du côté de Toronto avec MLSI, est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle est née de difficultés de l'une ou de quelques-unes des entités? Parce que moi, quand j'entrevois l'avenir, j'essaie de visualiser à quoi ça peut ressembler. Je me dis que ça arrivera pas tant que tout le monde peut se débrouiller tout seul. On a un désir d'autonomie puis que l'autre ne se mêle pas de nos affaires. Donc, j'ai envie de penser que c'est nécessairement une situation difficile qui va faire que tout à coup, quelqu'un va tendre l'oreille à l'intérêt et à la capacité d'acheter de l'autre.
Oui. Mais je pense qu'avant tout, c'était le potentiel de négocier d'une voie unique au niveau des licences, des droits de licence télévision, radio et autres, au niveau des fournisseurs aussi, bières et autres pour les nommer, qui sont des gros commanditaires des clubs. Et on a vu aussi que si on gérait l'ensemble de nos propriétés et l'ensemble de nos canaux de communication d'une même voix, il y avait beaucoup d'efficacité à aller chercher. Au niveau organisationnel aussi, chaque équipe garde ses structures globalement, mais après, pour des promotions croisées, pour des stratégies de vente, qui par exemple, t'achètes une loge au Canadien, pour y avoir accès, tu dois prendre une loge à l'Impact, ça serait une façon intéressante d'amener le monde corporatif plus rapidement.
T'as le gros bout du bâton. Ce que l'Impact actuellement n'a pas, mais s'il pouvait jouer, par exemple, du fait qu'il appartient au Canadien de Montréal, bon, là, c'est le Canadien qui t'approche, une corporation, je comprends où tu veux en venir, c'est que t'as vraiment, ouais, c'est ça, je l'ai dit, t'as le gros bout du bâton.
Et en même temps, bon, je dis pas que l'Impact appartiendrait aux Canadiens, évidemment, il y aurait une structure de holding où chacun trouverait, par rapport à sa part, au niveau revenu, au niveau profit, évidemment, qui lui revient, mais globalement, pour la négociation, c'est beaucoup plus facile après.
Des partenaires de diffusion également, encore une fois, j'imagine que tu t'assures de trouver des niches, quoique, on peut pas dire que les équipes actuellement en place à Montréal ont des problèmes de diffusion.
Non, le contrat que l'Impact a eu avec TVA Québécois est excellent aussi. C'est de connaissance publique. Don Garber en a aussi parlé. C'est un très beau contrat. Donc les équipes sont diffusées. Par contre, les audiences varient beaucoup. Encore une fois, si tu fais le travail ensemble, tu peux amener plus de gens vers ton produit. Et aussi, je le répète, les différentes équipes parle à des segments différents. L'impact est vraiment 18-34. Les Canadiens cherchent à recruter du 18-34 aussi. L'impact pourrait aider les Canadiens à amener du 18-34 au Centre Bell.
Mais quand on dit cherche à recruter du 18-34, on peut pas penser qu'il en attire pas déjà, parce que il y a un paquet d'enfants qui sont bien contents quand ils sont invités à regarder un match du Canadien au Centre Bell, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter les billets. C'est peut-être le prix des billets qui fait que c'est plus segmenté chez la population un peu plus vieille qui a les moyens de se le payer.
Oui, mais après, on veut un engagement par rapport aux audiences télé, par rapport aux e-sports et aux franchises NHL des e-sports, dont les jeux vidéo pour console que vous connaissez. C'est comme ça que les gens commencent à s'engager avec la marque.
Et c'est drôle parce que je pensais pas d'aller là, mais est-ce qu'on voit des concessions de sport électronique s'amener à Montréal dans le futur? Est-ce que le Canadien aura son équipe sur e-sports ou l'Impact?
C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Oui, je pense que oui, ça va arriver. Je pense qu'il y a des gros sous qui arrivent dans le e-sport en ce moment. Jusqu'à récemment, il fallait trouver les commanditaires pour aller en e-sport. Maintenant, ils arrivent. Ils voient que la masse est rendue là. T'as une croissance exponentielle du e-sport. Il y a beaucoup d'équipes professionnelles qui ont leur équivalent e-sport. Donc, ils ont l'équipe virtuelle et l'équipe réelle sur le terrain.
L'avenir de l'Impact de Montréal, puisque tu y as travaillé quand même pendant quelques années, la vice-présidence marketing, Don Garber, qui est venu en ville cette semaine, réitérer la nécessité pour l'équipe d'investir notamment dans son infrastructure de façon à être capable d'accueillir dans un stade extérieur des matchs peut-être en février, assurément au mois de mars. Est-ce que ça défie la logique de penser ça quand on a un stade olympique tout prêt à accueillir tout le monde bien au chaud juste à côté ou d'investir des millions de dollars pour deux matchs par saison? Quoi ta réflexion là-dessus?
Ça me plaît beaucoup de revendiquer notre nordicité. Le fait qu'on joue dans des conditions extrêmes. Je vous rappelle la campagne marketing de Toronto encore, We the North, et ça fait partie des conditions. Quand tu viens jouer à Montréal et qu'il y a un peu de neige sur le terrain, comme il y en a eu à Minnesota.
C'est un clin d'œil à Game of Thrones, je pense.
Oui, tout à fait.
Parce qu'ils jouent à l'intérieur.
Oui, exact. Et oui, pour le défi
de la nordicité à l'extérieur, au mois de mars, février, on n'est pas sûr.
Non, mais je parle de Minnesota, je parle de New England, je parle de plusieurs équipes de la côte est américaine qui sont soumises au même calendrier en MLS. Donc, moi, le fait de commencer plus tôt au Stade Saputo, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, je reviens à la logique d'investissement. C'est des gros sous quand même d'hiverniser ou de rendre le stade conforme à une température autour de zéro avec de la neige. Mais si tout ça dans une logique d'investissement de portfolio, sous un même chapeau, on peut accélérer ces investissements-là et amener de plus en plus de nouveaux consommateurs dans le bassin global qui consomme les marques sportives montréalaises.
Je ne sais pas combien ça va coûter, moi, chauffer le terrain avec la géothermie, chauffer les gradins puis refaire la plomberie, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour deux matchs par année?
C'est plus que deux matchs par année.
Trois?
En même temps, tu peux jouer plus tard. On sait que la MLS, si l'impact se rend très loin, ça veut dire des matchs au mois d'octobre, novembre. La MLS Cup, souvent, se joue début décembre. Il y a plusieurs éléments. Je pense que ça vaut la peine pour plusieurs raisons. Le stade Saputo est vernisé pourrait servir éventuellement à d'autres événements. N'oubliez pas, c'est un lieu de rassemblement qui a 20 000 places, qui pourrait servir à plusieurs choses.
Oui. Monsieur Saputo est condamné à continuer d'investir, donc...
Hein? Je pense que l'investissement doit continuer, oui, effectivement.
Parce que s'il ne continue pas, il devra soit amener des partenaires ou soit mettre une pancarte à vendre. Sinon, on va freiner l'essor de l'entreprise. Puis je me demandais, compte tenu de la valeur établie de la concession de l'Impact à Montréal, selon Forbes, on parle d'un montant maintenant qui avoisine les 150 millions de dollars. Est-ce que tu penses, Hugues, que quelqu'un à Montréal, un homme d'affaires montréalais ou canadien, pourrait acheter ça puis garder ça ici ou ça va aller avec Joey Saputo du début à la fin, puis en espérant que la fin pas pour demain, là, mais que ce serait l'autre génération de Saputo qui continuera d'amener la concession dans le futur?
Je pense que que l'apport de la famille Saputo et Joey Saputo à Montréal a fait et extraordinaire, et on peut juste le remercier pour ça. Je pense qu'il va aller aussi loin qu'il peut, mais c'est lui qui pourrait répondre à cette question-là, c'est pas moi, mais je pense que le soccer, de toute façon, est là pour rester. C'est une question de temps avant que ça soit profitable. Moi, j'ai lancé un média soccer il y a pas très longtemps aussi, qui s'appelle Victoire, parce que je crois que ce sport-là va générer beaucoup, beaucoup d'engagement et beaucoup de revenus à plus ou moins court terme. N'oubliez pas que la Coupe du Monde arrive en 2026 aussi à Montréal, au Canada. Ça va être un moment où ça va exploser. Le programme stratégique de Soccer Canada mise beaucoup là-dessus. Il va avoir beaucoup, beaucoup de fonds qui vont arriver pour construire ce sport-là dans les prochaines années. Et je pense que l'Impact est très bien placé pour en récolter les fruits aussi. Et il le mérite.
Au-delà de la structure de Maple Leaf Sports and Entertainment qui serait souhaitable pour la vieille la viabilité de plusieurs entreprises sportives qui vivraient dans le même marché à Montréal. Penses-tu que toutes ces équipes-là, ce dont on rêve, là, basket, soccer, ben soccer on l'a déjà, mais basket, baseball, hockey, football, est-ce que tu penses que Montréal peut absorber ça sur une échelle de 5 à 10 ans d'ici?
Je suis impressionné de voir la croissance de Montréal depuis quelques années en termes de construction, en termes démographiques, en termes de pôles qu'on a pu créer au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple. Ça devient des hubs internationaux à Montréal. Il y a des postes de très bons salaires qui sont établis à Montréal. Donc, je pense qu'on va pouvoir jouer dans les grandes ligues avec toutes les villes nord-américaines. C'est sûr qu'on avait du rattrapage à faire. On a eu des années plus difficiles. C'est le moment où il faut investir. Après, il faut être patient et on récolte les fruits après. Donc, ouais. Oui, je pense qu'on va y arriver.
Mais est-ce que l'Impact devra devenir, ou est-ce que la MLS devra devenir vraiment un circuit de premier ordre mondial pour que l'Impact devienne ce qu'on pourrait qualifier d'incontournable?
Écoute, si des marques comme le Paris Saint-Germain, comme le Barcelone, comme Real Madrid, comme Manchester City investissent en Amérique, c'est qu'ils voient l'opportunité de croissance du marché. La MLS va continuer de croître. C'est une ligue qui est en pleine expansion, les demandes de concessions, de licences, de franchises sont en pleine accélération. Miami arrive avec David Beckham dès l'an prochain. Donc oui, je pense qu'il y aura une place et que la Coupe du Monde va vraiment faire en sorte que ça va passer à un autre niveau. Et la MLS est une ligue de premier plan. C'est la première ligue nord-américaine. Et c'est pas une ligue de second ordre. Oubliez pas, je peux conclure là-dessus. Il y a quelques années, quand un joueur comme David Beckham venait jouer avec LA Galaxy, c'était un beau coup marketing. Maintenant, quand des joueurs comme Ibrahimovic joue aussi à Los Angeles, le gars a 3-4 bonnes saisons encore devant lui. Il marque 20 buts. C'est un choix sportif autant qu'un choix marketing. Mais lui est ici parce qu'il voit le potentiel de croissance pour la marque Ibrahimovic aussi. Donc, c'est une... La MLS,
parce
c'est
qu'ils
une
sont seuls dans la forêt, parce qu'il y a peu de vedettes encore. Alors, ceux qui débarquent sont plus grands que nature. Ça les favorise, parce que vraiment, ils dépassent tout le monde d'une tête, et au sens figuré, que ce soit Beckham ou Ibrahimovic. Alors, il faudrait qu'ils soient accompagnés de plusieurs autres vedettes pour qu'on atteigne le statut peut-être anticipé ou souhaité.
C'est certain qu'Ibrahimovic, c'est un cas particulier au niveau physiquement, au niveau physique, au niveau du caractère aussi, mais les vedettes vont se développer. Ces vedettes-là, elles se construisent aussi à travers les partenaires médias, à travers les résultats sur le terrain, évidemment. Mais tout ça, c'est une croissance normale qui fait que le produit va être de plus en plus attrayant et la MLS, ça sera une ligue aussi grande que les ligues européennes. Je donne un dernier exemple sur la Ligue française, par exemple. Les assistances moyennes en MLS sont plus grandes qu'en Ligue 1 en France, dans un marché ultra mature, qui a un historique de foot et tout ça. Donc la MLS arrive là où on pense qu'elle doit être.
Elle soutient la comparaison.
C'est une grande ligue.
Eh bien, Hugues Léger, merci beaucoup pour cette conversation et ces observations. Merci beaucoup. Et parlant de l'Impact, les gens seront heureux de savoir qu'au retour de la pause, eh bien, on va entendre Rémi Garde, qui était l'invité de Puisqu'il faut se lever ce matin. Donc, un résumé de cette entrevue qu'il accordait ce matin à la veille de l'affrontement contre Nouvelle-Angleterre demain. Et il confirme la participation au match de Piatti. Merci, Hugues.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Au revoir.